Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs, monsieur le sénateur, et puis la plateforme pour une autre PAC d'avoir convié le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et de nous avoir invités à prendre la parole. Et je souhaite excuser donc le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation ainsi que ma directrice générale qui n'ont pas pu venir aujourd'hui retenus par d'autres engagements. Et de fait, représentant le ministère, je représente le ministre qui est le chef de l'administration. Je voudrais commencer juste très rapidement par expliquer pour nous, en tout cas, ce qui explique l'essor des réflexions autour des PSE depuis les années 2000 en matière de politique publique agricole. Vous l'avez dit, monsieur Labbé, il est établi que l'agriculture, elle impacte l'environnement et le climat. Elle a sa part de responsabilité au même titre que d'autres secteurs économiques. Et ces impacts, ils diffèrent selon les productions et selon les modèles de production. On peut citer pression quantitative et qualitative sur la ressource en eau, perte de biodiversité, appauvrissement des sols, émissions de gaz à effet de serre, je m'arrêterai là. Et à l'inverse, l'agriculture aussi, elle peut permettre d'augmenter le stockage carbone dans les sols, de produire des substituts aux matières pétro-sourcées et de gérer, maintenir des paysages. L'objectif à partir de là, qui est de plus en plus partagé, on le croit, et depuis quelques années aussi clairement porté politiquement, notamment dans notre pays, il est de maximiser les externalités positives et puis de réduire celles qui sont négatives. Et il s'agit en particulier d'établir une nouvelle relation entre agriculture et environnement au travers en particulier de l'agroécologie. Donc il y a désormais une conscience collective, on l'a senti aussi lors des états généraux de l'alimentation, du fait que si l'agriculture est une partie du problème en matière environnementale et climatique, elle est aussi victime et doit s'adapter donc, notamment au changement climatique. Et dans le même temps, certains modèles de production plus ou moins nombreux selon les interlocuteurs, peuvent apporter des solutions en fournissant des services environnementaux qui ne sont bien souvent pas rémunérés, en tout cas suffisamment et à leur juste valeur, par les marchés. Et donc les paiements pour services environnementaux, ils sont devenus au fil du temps un des leviers, qu'ils soient privés ou publics, selon les cas, pour encourager les pratiques agricoles vertueuses et pourvoyeuses d'aménités environnementales et climatiques, à défaut donc d'un marché global qui soit performant en la matière, dans le cadre de la construction d'un nouveau pacte social entre l'agriculture et la société. Cela ne doit pas pour autant nous faire perdre de vue qu'il faut malgré tout poursuivre la nécessaire reconnaissance de ces services rendus par le marché et notamment par le consommateur. Donc on peut parler PSE sans oublier aussi qu'il y a le versant prix qui est aussi une manière de rémunérer ces services. Alors je voudrais me pencher à présent rapidement et en toute humilité sur ce qu'est un paiement pour service environnemental dans la théorie et puis qu'ils peuvent être ou ce qu'ils sont dans la pratique actuelle, ici en France, en se concentrant sur les MAEC dans la PAC, qui sont l'outil finalement de politique publique agricole qui s'en rapproche le plus a priori. Et donc d'après la bibliographie et notamment une étude qui a été réalisée à la demande du ministère chargé de l'agriculture en 2016, Duval et Hall, qui était commandé pour réfléchir à la question de la rémunération des services environnementaux dans les politiques publiques, on peut retenir schématiquement que pour constituer un PSE, certaines caractéristiques doivent être réunies à minima. J'en citerai 5. D'abord, le dispositif doit être volontaire. Il doit identifier un service ou un bouquet de services écosystémiques. Le paiement n'est versé que si le service est effectivement fourni. Le paiement entre l'acheteur et le pourvoyeur doit être incitatif de facto. Et le résultat qu'on recherche, il ne consiste pas forcément à améliorer une situation initiale. On ne parle pas forcément, quand on parle de PSE, de transition, mais plutôt à améliorer des fonctions écologiques par rapport à un scénario en l'absence de PSE. C'est ce qu'on appelle le principe d'additionnalité. Tout ça est assez compliqué au regard des politiques publiques. Autour de ces fondamentaux, donc, on a de nombreuses modalités différentes de mise en œuvre qui peuvent se développer, notamment en fonction de la nature des biens environnementaux qui sont fournis. Donc, je prendrai qu'un exemple. Par exemple, si on parle de biens publics locaux, qui seraient par exemple la qualité de l'eau, on a des PSE qui vont émerger dans des relations bilatérales qui finalement peuvent être assez simples, entre un groupe d'agriculteurs, par exemple, autour d'une zone de captage, et puis soit l'entreprise qui commercialise l'eau, soit la collectivité qui la gère. Et puis, au contraire, quand on s'intéresse à des biens publics globaux, je pense par exemple à la séquestration de carbone, là, le bénéficiaire, il est plus diffus, il est plus lointain, c'est la planète, quelque part. Et donc, les PSE qu'on devra développer, dans ce cadre-là, ils vont nécessiter à la fois peut-être plus d'imagination, mais surtout plus de médiation et d'intermédiation entre les fournisseurs du service d'un côté et puis les bénéficiaires. Et donc sur ces bases-là, il est globalement accepté par la théorie et la recherche aujourd'hui que les MAEC, elles constituent dans une certaine mesure des PSE. Et en fonction de leur finalité, elles répondent soit à des enjeux locaux, soit à des enjeux globaux, soit à des objectifs de transition, soit à des objectifs de maintien de pratiques et de services. En tout état de cause, elles ont des failles par rapport au concept idéal. Et il convient d'identifier justement ces failles, pour améliorer ces dispositifs ou alors en trouver de nouveaux. Donc je voudrais m'intéresser à ces failles des MAEC. Alors la première, elle est réglementaire. C'est une limite qui est importante et qu'on va voir enfin tout le long de mon introduction, qui est liée aux règles de l'OMC et qui oblige en fait les États membres à limiter le montant des MAEC au seul manque à gagner ou surcoût qui est généré par la pratique mise en œuvre. Ça donne des paiements qui ne sont pas toujours très incitatifs et ce qui peut engendrer malheureusement un nombre assez limité d'agriculteurs qui s'engagent dans certains dispositifs. L'autre grosse limite qui est liée à la première, c'est qu'il s'agit de dispositifs pour la plupart basés sur des moyens à mettre en œuvre qui ne permettent pas vraiment de garantir le résultat. C'est d'autant plus vrai que la rémunération étant peu incitative, le risque pris par l'agriculteur s'il s'engage sur le résultat n'est pas totalement couvert par le paiement. Alors même que l'agriculteur ne peut pas maîtriser tous les aléas qui vont jouer sur le résultat. Et donc, mon propos, je le souhaite le nuancer un tout petit peu sur ce point précis, parce qu'il existe malgré tout des MAEC à obligation de résultat. On peut citer par exemple systèmes herbagers et pastoraux, qu'on suit avec une teneur en biodiversité floristique des surfaces qui sont engagées, ou encore celle de réduire les phytosanitaires avec l'indicateur d'indice de fréquence de traitement. Par ailleurs, pour produire des résultats sur l'écosystème, on le sait, il faut une continuité géographique, ou en tout cas un nombre critique d'agriculteurs engagés sur un territoire. Et le cadre national actuel encadrant les MAEC l'a bien identifié d'ailleurs, puisque les MAEC ne peuvent être ouvertes que dans le cadre de projets territoriaux. Mais les MAEC, elles restent pour autant un engagement individuel. Et donc certaines mesures, dont les montants notamment sont peu incitatifs, elles sont contractualisées par un nombre réduit d'agriculteurs, et de fait leur niveau de service rendu est faible, et l'efficacité d'action est freinée. Et enfin, les MAEC, elles sont conçues pour encourager un changement de pratique ou pour maintenir des pratiques favorables à l'environnement sur une période donnée. Or, un PSE idéal, lui, il rémunérerait des services rendus par le maintien dans le temps, sous-entendu illimité, de pratiques vertueuses. Et le corollaire de ça, c'est que le niveau de service rendu augmentant avec le temps, logiquement, la rémunération devrait croître aussi avec le temps. En ce sens, les aides au maintien en agriculture biologique sont des PSE, ainsi que certaines MAEC qui rémunèrent l'adoption ou le maintien de pratiques répondant à des enjeux locaux, comme le maintien d'infrastructures agroécologiques ou les prairies. à la limite près que ces outils sont de facto limités dans le temps et la rémunération est statique, parce qu'ils s'inscrivent dans une programmation de politique publique avec des budgets annuels, etc. Donc on le voit, si la recherche effectivement considère communément et en mode un peu dégradé, on va dire, que les MAEC peuvent entrer dans la catégorie des PSE, pour autant il y a du travail, et il reste du travail, pour améliorer ces outils, et puis en développer d'autres qui seraient potentiellement plus adaptés à l'objectif qu'on poursuit. Et j'en arrive à la question centrale, comment mieux rémunérer les services environnementaux rendus par l'agriculture, dès maintenant, hors de la PAC, et dans la PAC, et puis dans la future PAC, au regard des outils qui sont proposés par la Commission européenne. Donc je vais vous présenter ici les travaux qui sont en cours au niveau gouvernemental, mais mes propos n'ont absolument pas vocation à clore les débats, bien au contraire, à vous fournir des informations, si tant est que vous ne les ayez pas déjà, pour nourrir les réflexions qui vont se poursuivre toute la matinée et puis évidemment bien au-delà. Donc vous le savez, et vous l'avez dit, Monsieur Labbé, les EGA ont incité les acteurs à travailler à une meilleure reconnaissance des services rendus par l'agriculture, notamment à travers les prix payés aux producteurs. Le président de la République, dans ses vœux au monde agricole en début d'année, a incité à rémunérer davantage les agriculteurs pour leur engagement environnemental. Et puis en juillet, le plan biodiversité, qui est piloté par le MTES, a intégré une action, la numéro 24, qui est, elle, copilotée par le MAS, et qui consiste à mettre en place des paiements pour services environnementaux dans le cadre de la PAC, et à expérimenter de nouveaux dispositifs sans attendre la prochaine PAC. Et donc c'est dans le cadre du 11e programme des agences de l'eau que 150 millions d'euros seront consacrés d'ici 2021 à de nouveaux outils de PSE. On est donc dans un moment charnière où à la fois on doit trouver des solutions à cette question dès 2019, et puis on doit également en même temps engager les réflexions pour la prochaine programmation. Donc sur la base du plan biodiversité, tout d'abord, la question posée, elle est celle de réussir à faire mieux dans le cadre de la PAC actuelle, avec le financement des agences de l'eau, et étant donné les contraintes à la fois des mesures à notre disposition, notamment les MAEC, et celles des maquettes des programmes de développement rural qui sont déjà établis, et du temps de programmation qui reste. Donc ces PSE, ils pourraient porter sur différents compartiments de l'environnement, dont il faudra fixer des priorités claires à mettre en œuvre de manière urgente, enfin rapide, pour permettre d'accompagner des initiatives agricoles innovantes qui permettent de maximiser les services rendus à l'échelle des exploitations et des paysages. Les discussions, elles ont débuté au niveau interministériel pour aboutir à un dispositif qui soit juridiquement valide et validé au regard des règles de financement européens, qui sont contraignantes au regard de la limitation du niveau de rémunération au surcoût et ou au manque à gagner. Et puis un dispositif qui soit simple à administrer et à contrôler, et qui soit simple à mettre en œuvre pour les bénéficiaires pour pouvoir se développer rapidement. Ensuite, sur la base des travaux engagés depuis 2016 et notamment avec l'INRA par le ministère de l'Agriculture pour recenser les différentes formes de PSE, on mène actuellement une étude en nous appuyant sur un certain nombre d'exemples de PSE qui sont mis en place sur le terrain en France et ailleurs et dont les résultats sont attendus pour fin du premier semestre 2019, tout début du deuxième semestre 2019. Et le but est d'élaborer 3 guides établissant les bonnes pratiques, en fait, à destination 1, des services de l'État, 2, des collectivités, et 3, des acteurs privés et associatifs qui sont amenés à construire des PSE. Et on a l'espoir avec ça de pouvoir mieux accompagner l'émergence de projets de PSE hors du cadre de la PAC ou dans la PAC, d'initiatives qui soient publiques ou privées, et qui soient plus nombreux, qui soient solidement constitués et qui puissent apporter des solutions à des problématiques environnementales dans les territoires, dans une logique gagnant-gagnant. Tous ces échanges, en fait, qui ont cours en ce moment, ils font apparaître, donc on l'a vu, des limites des outils actuels de politique publique, et puis ils nous permettent dans le même temps de nourrir les réflexions pour l'avenir. Et j'en arrive à la future PAC, à la question de comment améliorer les MAEC d'une part, et se saisir des nouvelles opportunités qui sont ouvertes par l'éco-scheme en particulier ou l'éco-programme, pour mieux rémunérer les services environnementaux qui sont rendus par l'agriculture, tout en développant des dispositifs simples à administrer. Et donc là, je vous ferai grâce de vous raconter exactement tout ce que propose la Commission dans la future PAC, parce que je pense que la plupart d'entre vous le savent très bien. La logique de résultat qui est engagée par les propositions de la Commission pour la future PAC, elle est encourageante du point de vue de notre capacité justement à ajuster les outils de soutien vers la rémunération pour services environnementaux. Mais il ne faut pas s'y tromper, cette logique, elle n'est pas forcément si simple à mettre en œuvre à plusieurs titres. D'abord, on parle du monde du vivant ici. Et on le sait, il est pavé d'aléas qui sont jamais tous maîtrisables par les agriculteurs. Et le paiement sur résultat, il est risqué par nature pour les agriculteurs. Et donc, il faut que ce risque soit pris en compte. Payer ensuite sur le résultat, ça implique une ligne assez claire et très simple si on veut être en capacité de payer en temps et en heure et de contrôler en temps et en heure aussi entre les mesures soutenues, les pratiques à mettre en œuvre et les résultats attendus et délivrés. Sinon, ça ne marche pas, le paiement sur les résultats. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que jusqu'à présent, dans la politique agricole commune, principalement, on a de la mesure de moyens. Il s'agit d'une vraie opportunité, a priori, pour dépasser cette logique limitative de compensation ou dédommagement pour basculer vers un système de rémunération en échange de la fourniture de services. Mais la Commission, dans ses propositions, elle n'est pas allée, en tout cas c'est ce qu'on considère au ministère de l'Agriculture à ce stade, totalement au bout de la logique, et notamment en ne levant pas clairement la contrainte OMC boîte verte, en particulier sur les MAEC. Et donc à ce stade des négociations et des échanges qui se tiennent à la fois au niveau national mais aussi et surtout au niveau européen, au Conseil, au Parlement européen et avec la Commission, ce que cherche à faire la France, en lien avec l'ensemble des parties prenantes, c'est de s'assurer que toutes les portes sont ouvertes et qu'un maximum de verrous sont levés pour autoriser la mise en place de véritables PSE dans le nouveau cadre européen, tout en s'assurant que l'instrumentation en sera simplifiée par rapport à la période actuelle. On n'en est pas encore, en fait, à réfléchir et à définir précisément ce que seront les choix français dans le plan stratégique national qui déclinera la prochaine programmation au niveau de notre pays. Ça, ce sera une étape 2 du processus de négociation et qui s'ouvrira en 2019. Celui où on va travailler avec tous à définir ce que l'on met dans chacune des boîtes à outils pour intervenir. En ce sens, le colloque de ce matin, pour moi, il tombe au bon moment dans le travail de réflexion collective. De même d'ailleurs que la proposition de résolution numéro 86 qui est portée par le groupe socialiste et républicain et qui sera débattue la semaine prochaine en séance ici, en présence du ministre, et qui sera aussi une occasion de débattre du sujet et de le mettre en lumière. À ce stade donc, la France, elle porte des positions qui visent à sécuriser la possibilité et faciliter la mise en œuvre de PSE, et je voudrais le souligner dans un contexte de grande incertitude. De grandes incertitudes sur quand est-ce que tout ça se mettra en œuvre, notamment en raison de la tenue des élections européennes au printemps 2019. De grandes incertitudes en termes de disponibilité budgétaire, qu'elle soit globale ou sur les différents instruments de la PAC d'une part. Et puis, quant aux contours précis et au fonctionnement en détail des outils d'intervention respectifs qui nous sont proposés. Et donc les positions qu'on porte à ce stade sont les suivantes, sur le sujet qui nous intéresse. Je ne vais pas vous faire toute la position française sur la PAC aujourd'hui. On défend d'abord l'architecture environnementale à 3 niveaux, telle que proposée par la Commission dans le cadre d'un plan stratégique national qui couvre les 2 piliers, avec donc la conditionnalité, l'éco-scheme ou éco-programme et les MAEC. On défend par ailleurs l'idée que la conditionnalité future, elle ne doit pas régresser en termes de niveau d'exigence par rapport au verdissement actuel. Ce qui signifie que l'éco-scheme, de fait, sera forcément supérieur au niveau du verdissement actuel. Nous défendons aussi un éco-scheme sur le premier pilier qui soit obligatoire pour tous les États membres et volontaire pour les agriculteurs. Sinon, point de paiement pour service environnemental. Et sur ce point, on a besoin vraiment de l'ensemble des parties prenantes françaises pour porter avec nous cette ligne. Parce que c'est un point d'achoppement qui est très fort et qui est très important entre les États membres à ce stade, toujours. On a gagné le soutien d'un certain nombre d'États par rapport au début, mais on est encore très très loin de la majorité d'États membres au Conseil. On porte aussi l'idée que les lignes de démarcation, si elles doivent être claires entre ce qui peut être soutenu par l'éco-scheme d'une part, en fonction de sa taille, qui pourra permettre ou non de soutenir une majorité d'agriculteurs, et puis les MAEC d'autre part, qui, elles, pourraient être ciblées sur des problématiques plus spécifiques. Ça, là-dessus, on est tous d'accord. En revanche, le texte n'est pas clair à ce stade, et pour nous, ça ne doit pas signifier que des pratiques similaires ne puissent pas être soutenues par l'un et l'autre des dispositifs, à partir du moment où les niveaux d'ambition sont différents et garantissant, du coup, qu'il n'y ait pas de double financement d'un même objet. Je prends un exemple très simple. L'agriculture biologique, c'est un objet unique. Il y a un sujet de transition, il y a un sujet de maintien. Il y a un sujet de conversion, il y a un sujet de maintien. Est-ce que, parce qu'on parle dans les deux cas d'agriculture biologique, ça veut dire que toutes les problématiques agriculture biologique doivent être traitées soit dans l'éco-scheme, soit dans les MAEC, ou est-ce qu'on peut séparer entre les deux outils en fonction de la nature de ce qu'on veut faire. On défend aussi la sécurisation de la possibilité d'effectuer des paiements forfaitaires dans le cadre de l'éco-scheme. C'est écrit, mais pas totalement écrit, et ça va toujours mieux en le disant. Ce qui pourrait permettre de se défaire de la contrainte dans ce cadre-là du lien avec les niveaux des paiements de base. Nous portons aussi la possibilité d'inclure dans l'éco-scheme le soutien à des modèles de production qui sont encadrés par une certification environnementale ambitieuse, telle que l'agriculture biologique ou encore par exemple le niveau 3 de certification environnementale HVE. À débattre, à discuter évidemment. À titre d'exemple, et puis sans préjuger des choix qui seront faits, on peut considérer qu'il y aurait une certaine logique à ce que le maintien d'une production certifiée en agriculture biologique, par exemple, soit rémunéré dans ce cadre, sous forme forfaitaire ou pas, pour services rendus à la préservation de la biodiversité notamment. Quant aux MAEC, et je vais terminer par elles, parce que j'ai commencé par elles, nous défendons l'idée que l'on doit pouvoir intégrer dans les paiements une prime de risque qui permette de dépasser le seul manque à gagner ou le surcoût pour certaines mesures et ainsi rendre les paiements plus incitatifs et donc cet outil potentiellement plus attractif, permettant de rémunérer des services rendus avec plus de chances d'atteindre une continuité territoriale et donc une continuité environnementale dans notre action. J'ai donc terminé avec mon introduction. J'espère avoir été claire et pas trop longue. Et j'espère vraiment que les réflexions du jour, elles vont permettre de nourrir les travaux qui sont engagés à la fois dans la PAC actuelle et dans la future PAC. Je vais les suivre avec attention et grand intérêt et je ferai remonter les propositions qui seront formulées aujourd'hui au ministère pour enrichir nous-mêmes nos réflexions internes sur ce sujet qui nous paraît effectivement, comme vous l'avez dit, Monsieur l'Abbé, important à la fois pour les agriculteurs, pour l'environnement et pour la relation qu'a l'agriculture aujourd'hui avec le reste de la société.